dans l'actualité des idées aujourd'hui. Pourquoi a-t-on inventé les musées? Comment sont-ils nés? Et pourquoi nous semble-t-ils aussi indispensables aujourd'hui? Notre invité s'appelle Christophe Pomian. Il est historien et philosophe, installé en France depuis les années 70. Il publie cette semaine le premier volume de sa trilogie « Le musée, une histoire mondiale » chez Gallimard. Du trésor au musée. Voilà pour le titre de cette première partie. Alors pourquoi le musée est-il si nécessaire aux sociétés? C'est l'énigme qu'il cherche à percer. Et ce faisant, il éclaire l'institution sous un jour nouveau, en posant sur elle un regard assez émerveillé, je dois dire, devant ce miracle de la nature, ou plutôt de la culture. L'histoire du musée, prévient-il, doit être plus qu'une histoire des musées. C'est une histoire des sociétés où le musée est devenu possible et des individus ou des groupes qui ont voulu et su en faire une réalité et le rendre indispensable. Fasciné donc peut-être par son existence même, mais aussi par ses fonctions, dont la première d'entre elles, garder des fragments du monde d'hier. Bonjour à vous, Christophe Pomian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Pissarro's.
Rubens.
Picasso.
Holbein.
Rembrandt B12. Ou à la rigueur, C12.
Stubbs.
Bellini.
Leonardo.
Titian.
Mais Rembrandt, c'est sûr.
Je te dis que c'est Velasquez, papa.
Velasquez.
Michelangelo.
Poussin.
Vermeer.
Leonardo da Vinci.
J'aime pas les musées. J'aime l'ambiance des musées.
Franz avait lu dans François qu'un Américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux.
Botticelli.
Aïe. Ouille.
Là, là, Archimboldo, l'été, le printemps.
Je suis entrée dans le tableau, c'était comme si, tout à coup, je plongeais dedans. Je sais, ça paraît fou.
Ce qui vous est arrivé à la galerie des offices, nous l'appelons le syndrome de Stendhal.
Un guide, pour quoi faire?
Pour expliquer, je comprends rien.
Mais il n'y a pas à comprendre, Josette, il y a à ressentir.
Il y a un Mondrian, voilà, on se dit, mais... Ah, je voudrais juste pouvoir vivre avec pendant quelques jours.
On est resté pendant des années devant Courbet, Degas, Miro, Chiricot. Tu crois qu'on peut regarder une poule?
Le réalisateur Thomas Beau a poussé pour vous les portes du musée et on est entré dans les pas d'Agnès Varda, de Jean-Luc Godard, de Dario Argento, de Fabrice Luchini ou encore de Frédéric Wiseman. Vous n'êtes pas le seul à vibrer dans un musée, Christophe Pomian. Hein ? Quelle palette d'émotions et de réactions on vient d'entendre dans ces quelques extraits qui nous ramènent aussi au cinéma. Qu'est-ce qui vous fascine tant au point d'avoir consacré 30 ans de votre vie, 30 ans de travail au musée, à son histoire, sans avoir jamais visiblement le sentiment d'en avoir fait le tour de cette question?
Non, en effet, je n'en ai jamais fait le tour. J'ai plutôt l'impression, tous les temps, les sentiments d'une sorte d'incomplétude et de manque. Des choses que j'aurais dû encore savoir, des musées que j'aurais dû encore voir. Donc, c'est devenu un monde en soi énorme. Et je suis d'ailleurs ravi de ne pas être seul à en être fasciné, ce par quoi vous avez commencé. Je pense, et c'est ça ce qui m'a en fait intrigué dès les débuts de mon entrée dans les sujets, comment se fait-il qu'une institution qui est en apparence complètement inutile, à quoi ça sert un musée? Ça n'augmente pas les produits nationaux bruts. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Et pourtant, cette institution apparemment complètement inutile et en même temps une institution indispensable. Et il suffit d'essayer d'en priver une nation pour s'en convaincre. Je suis polonais, franco-polonais comme on dit maintenant, mais quand même polonais de toute ma première formation et des premières 40 ans de ma vie avant d'arriver à Paris. Et je sais très bien ce que ça signifie pour une nation d'être privée du droit d'avoir un musée. Et donc c'est ce contraste entre l'apparente inutilité et la manifeste indispensabilité du musée qui a été probablement au départ de ma réflexion sur les sujets.
Qu'est-ce qui fait qu'une nation peut être privée de musées, comme vous l'évoquez, mais, en faisant référence à la Pologne?
Par exemple, lorsqu'elle est sous une occupation étrangère, et une occupation qui, mettons, dans les cas de l'occupation russe, tsariste de la Pologne, surtout entre les années 1860 et la Première Guerre mondiale, excluait toute manifestation de caractère national. Mais c'était encore plus visible pendant cette occupation extrêmement cruelle à tous égards, qu'était l'occupation allemande, nazie. Les 6 années, la Pologne a été envahie en septembre 1939. La guerre s'est terminée en mai 1945. Différents territoires de la Pologne étaient occupés pendant différentes périodes. Mais grosso modo, disons 5 ans d'occupation nazie, c'était 5 ans de l'interdiction des musées, d'ailleurs des destructions programmées, conséquentes des biens culturels.
L'occupant étranger n'a pas intérêt à créer des lieux ou à les maintenir vivants, des lieux de mémoire, à sanctuariser la mémoire d'un peuple et d'une nation. C'est ce que vous évoquez, Christophe Pomian, d'où cette difficulté à percevoir ce que peut être la vie d'un musée pendant ces périodes-là. Quel est, vous, votre premier souvenir de musée, votre première entrée et approche dans un musée?
Mon premier souvenir des musées, c'est les souvenirs du Musée national de Varsovie. À notre retour dans la ville, je n'ai pas passé les années de guerre à Varsovie, donc, mais c'est ma ville natale, et j'y suis revenu au printemps 1946, donc déjà quand même une année après la fin de la guerre. Et ma mère m'a amené au musée national, je me souviens plus, il y avait une exposition dont maintenant les contenus m'échappent, donc je ne vais pas l'inventer. Et c'est mon premier musée, ma première visite au musée, et ensuite, à une autre échelle, quelques années plus tard, j'habitais Bruxelles. Et c'était les musées des Beaux-Arts de Bruxelles, avec ces superbes Rubens qui m'ont d'ailleurs laissé jusqu'à la fin de mes jours admirateur de ces peintres.
Alors, ce qui est passionnant, c'est que vous venez de l'évoquer, vous vous souvenez plus forcément de ce que vous avez vu la première fois dans ce musée à Varsovie en 46. Vous ne vous souvenez plus exactement de l'exposition qui était en cours ou des œuvres qui étaient accrochées, mais vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti. Vous en avez gardé un ressenti, une émotion, celle d'être entré pour la première fois dans un musée. Et c'est ce que vous racontez dans ce grand livre, cette autre entreprise monumentale, votre histoire mondiale du musée. Vous dites que l'invention du musée est d'abord une révolution des regards, de la place du sacré, du temps, et ça, ne l'oublions pas. On va écouter Ludovic Logier, conservateur au département Antiquité du musée du Louvre.
Il y a ce réflexe du selfie. Évidemment, pour nous, c'est très triste parce que quelqu'un qui visite un musée à reculons par le prisme de son écran, c'est quelqu'un qui est en train de rater sa visite. Je sais que c'est notre société, je sais que ça se développe comme ça. Et par moments, mais j'ai presque envie de dire, mais lâchez cet appareil, regardez ce que vous avez dans le dos, tournez-vous, et vous serez peut-être plus heureux qu'avec la millième photo de votre tête devant quelque chose.
Voilà, tournez-vous. Arrêtez de regarder dans vos téléphones portables, tournez-vous et regardez les œuvres qui sont accrochées, regardez les murs des musées. En quoi l'invention du musée, Christophe Pomian, a représenté une rupture intellectuelle, mais aussi sensorielle, ce que vous appelez une révolution du regard?
En ce que les regards dans les musées est orienté vers les œuvres. Et comment dirais-je, elles sont la fin, elles constituent l'objectif du regard. Dans, mettons, dans un temple, où vous pouvez avoir aussi des œuvres, mettons, des peintures dans un temple catholique, mais en principe, les images sacrées sont ne sont que des instruments ou des canons par lesquels on doit essayer de visualiser quelque chose qui est au-delà, quelque chose qui n'est pas visible. Au musée, vous regardez les œuvres. Évidemment, là aussi, vous, à travers les œuvres, vous pouvez avoir toute une série d'intentions différentes, de s'intéresser à l'artiste qui est caché derrière, à la situation, à la conjoncture qui a engendré cette œuvre, aux croyances qui lui ont donné son contenu, aux techniques qui l'ont suscité. Mais c'est l'œuvre qui est au cœur et au centre. À la différence, comme j'ai dit, des autres situations où on expose des œuvres, mais où elles sont instrumentalisées au service d'une liturgie différente.
Mmh. Aujourd'hui, il y a combien de musées dans le monde, hein? Plus de 80 000 musées environ dans le monde aujourd'hui.
C'est à peu près à ce que je suis arrivé, mais je dois dire tout de suite que d'abord, ces 80 000, c'est très approximatif, que les musées sont complètement en bisbille avec les statistiques.
Les musées ou les États ?
Pardon ?
Les musées ou les États ? Qui ne fournit pas les statistiques ?
Les musées, parce que ce n'est pas une appellation contrôlée. Mmh. Combien y a-t-il des musées en France aujourd'hui ? Vous pouvez avoir trois livres qui sont tous les trois sur les marchés, dont un vous dit qu'il y en a 7000, l'autre qu'il y en a 2500. Tout dépend comment on compte. Donc, et qu'est-ce qu'on considère comme musée ?
Mais qu'est-ce qu'un musée ? Mais en fait, c'est toute la question de ce livre.
Ouais. Est-ce que vous prenez comme musée les petits trésors des églises, la grange qui a été transformée en une sorte de lieu de mémoire paysanne, les toutes petites cabanes où on expose des objets. Donc, on ne sait pas trop bien combien il y en a au total. Il y a des statistiques dans certains pays qui sont fiables. Les 35 000 musées, aux États-Unis, on sait très bien à quoi ça correspond. Ça correspond à ce que l'Alliance américaine des musées définit comme musée. Et donc, c'est une statistique fiable. Mais pour d'autres pays, y compris le nôtre, encore une fois, énormément de choses dépendent de la manière de compter.
Et vous l'écrivez aussi, vous le dites, Christophe Pomian, la chose a précédé le mot. Qu'est-ce qu'un musée ? C'est assurément une petite révolution qui a eu lieu le jour où le premier musée est né. L'histoire commence à Rome, nous racontez-vous, dans cette grande histoire mondiale du musée, avec des dons de collection à la ville par des mécènes, ou plutôt un mécène, ici le pape Sixte. Ça a été le cas avec le pape, mais ça a été ensuite le cas aussi dans d'autres villes par des grandes familles. Le premier musée né de ça, d'un don d'une collection à un espace public, un lieu public comme la ville.
C'est-à-dire, si je devais m'exprimer avec toute la précision requise, je dirais que la première collection publique que nous avons convenu depuis le XVIIe siècle et les travaux de nos grands maîtres de cette époque, nous avons convenu de considérer comme les premiers musées. C'est en effet la collection d'antiquités qui s'est trouvée au préalable au Latran, qui appartenait au palais de Latran, qui appartenait à la papauté, et que Sixte IV offre à la municipalité de Rome, c'est-à-dire dans le langage grandiloquent de l'époque, au Sénat et au peuple romain, pour être installé au Capitole, donc dans l'endroit le plus prestigieux, mais les plus prestigieux en droit profane de la ville, parce que les plus prestigieux en droit sacré, c'est évidemment les palais du Vatican et les palais de Latran, ce sont deux pôles de la ville papale. Et évidemment, en donnant ces antiquités, Sixte IV n'a pas la moindre idée de ce qu'il est en train de faire dans notre perspective. Il règle un petit problème local de conflit entre la papauté et la ville, comme il en est arrivé plusieurs par le passé, comme il y en aura encore plus tard. Pour résoudre ces problèmes, il est romain. Son prédécesseur était vénitien, horreur. Pour les Romains, évidemment, pas pour les Vénitiens. Donc, la situation était très tendue, surtout que ses prédécesseurs avaient en effet fait des choses, si je peux dire, n'est pas très catholiques. Et, si on peut dire ça en parlant d'un pape, qui par ailleurs était un grand collectionneur. Et donc, Sixte IV, un problème local à résoudre, il leur offre ça pour remettre pour, dans un acte de captation de leur bienveillance. Et puis, il expose ça, c'était prévu qu'il expose ça au Capitole. Et les gens, c'est-à-dire pas n'importe quel genre, mettons les ambassadeurs vénitiens, les personnages de l'élite, commencent à venir et voient tout ça, sont très impressionnés par cette idée d'exposer les antiques comme ça dans un endroit profane. Encore 50 ans, on utilisa les mots musée pour qualifier cette collection.
Et c'est comme ça que cette idée est devenue virale, que petit à petit, cette idée de créer des musées a évolué, a voyagé, a traversé les Alpes pour s'implanter partout en Europe.
Vous avez dit viral, mais au départ, ces virus s'est propagé beaucoup plus faiblement que les Covid-19. Parce que,
on est conditionné en ce moment.
Parce que, en fait, bon, d'abord, nous avons une cinquantaine d'années où il ne se passe rien, même si il y a déjà des relations, dont des ambassadeurs vénitiens, quelques autres, de cette collection au Vatican. Ensuite, nous aurons en Italie 3 musées d'art qui vont se créer, qui vont être créés respectivement à Florence, à Venise et à Milan. Et puis de nouveau, pendant longtemps, il n'y aura rien. Avant que le passage des Alpes s'opère, il faudra attendre jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et encore, ce ne sont que, comme je les appelle, les têtes des ponts en dehors des Alpes, parce que la vraie croissance commencera au XVIIIe, à peu près à partir des années 1720. Et là, elle va se prolonger, même avec des ralentissements dus aux guerres. Mais quand même, au moment de la Révolution française, nous en sommes à peu près à une centaine de musées, encore une fois avec toutes les réserves pour les comptages. Mais là, je pense être à peu près sûr de mon fait. Nous sommes quelque part aux environs d'une centaine. Et c'est la Révolution française qui va, comme on dit maintenant, booster les phénomènes en créant d'un seul coup déjà sous les consulats, plusieurs musées, et non seulement sur les territoires de la France, mais sur ce qui était à l'époque les territoires de l'Empire, donc en Italie du Nord, dans le Brabant, dans la Rhénanie. Voilà, donc, cette propagation virale est très lente au début. Est très lente au début, elle va s'accélérer au XIXe siècle et prendre une tournure, alors là vraiment virale, grosso modo à partir des années 1950. La plupart des musées qui existent aujourd'hui dans le monde, sont des créations récentes.
Et pourquoi ? Et pourquoi surtout à partir des années 50 ? Qu'est-ce que le musée fait au temps et qu'est-ce que le musée fait à la mémoire ? En quoi les musées sont aussi des temples de notre mémoire ?
Mais ils le sont surtout parce que leur croissance à ces époques et surtout après la Seconde Guerre mondiale est très directement liée à la rupture qui est en train de s'opérer, de se propager entre les modes de vie, dans certains cas pré-industriels, remplacé par industriel et dans beaucoup de cas aussi par le mode de vie industriel remplacé par ce mode de vie qui est le nôtre aujourd'hui et qu'on peut appeler post-industriel si l'on veut. En tout cas, nous avons, en l'espace de 50 ans, nous sommes passés du monde où la machine à vapeur existait encore. Et où il y avait des locomotives à vapeur dans les chemins de fer, je m'en souviens très bien. Dans un monde des communications électroniques, nous n'y réfléchissons pas assez. Mais nous vivons une énorme rupture. Et toutes les époques des ruptures sont aussi des époques où naît le besoin de garder la mémoire du passé, de préserver les liens, de transmettre à l'avenir et à un avenir indéfiniment éloigné ce que nous gardons du passé, ce que nous considérons comme suffisamment important pour être préservé. Et les musées sont des institutions faites pour ça. C'est Sixte IV, sans le savoir, a tout à coup montré qu'on peut préserver les passés dans un environnement profond, non pas celui d'un temple religieux, préserver les vestiges du passé pour les transmettre à des générations futures. À l'époque, ils pensaient évidemment dans des toutes autres catégories.
Le musée opère une sacralisation des objets de son ressort, écrivez-vous Christophe Pomian, car il les soustrait à l'usure et donc à cette usure du temps en leur permettant une existence supposée sans limite. Il met en œuvre divers procédés pour rendre ces objets mêmes et par leur truchement, ceux qui les ont produits, dignes d'admiration, forme atténuée de l'adoration. De ce fait, les musées sont bien plus que des lieux de mémoire. Pourtant, chacun a besoin de sa mémoire. On va partir retrouver au Bénin Marie-Cécile Zinzou, autour de la question de la restitution, question sensible, des œuvres d'art de la France au Bénin.
Aujourd'hui en France, dans les collections nationales, il y a des œuvres qui ont été pillées il y a 120 ans, 130 ans. Est-ce qu'en tant que Français, on a envie de se regarder et de se dire « Ok, ces œuvres sont là, c'est bien normal et assumons la colonisation ?» Ou est-ce qu'on peut se dire à un moment « Ok, on a le droit de regarder notre histoire et de se dire qu'à certains moments, on a été formidable, à certains moments, on a fait des erreurs. Et ces erreurs, si on a la capacité de les réparer, eh ben allons-y, réparons-les. » Et côté africain, il y a un moment, on a le droit d'avoir accès à notre patrimoine. On est au Bénin, on est des héritiers de traditions extrêmement riches. On ne peut pas juste les réinventer comme ça. Il nous faut quelque chose de tangible auquel se raccrocher. Il faut qu'on puisse montrer aux enfants les traces de cette histoire et de cette fierté. Ces objets-là, ça dit tout notre patrimoine, ça dit notre civilisation, ça dit nos croyances, ça dit notre façon de gérer le pouvoir. C'est essentiel pour se construire.
Voilà tout ce que disent les musées, hein. Marie-Cécile Zinzou l'évoque, autour de cette question de l'appartenance des œuvres conservées dans un musée, des œuvres qui parfois ont été spoliées, des pays qui ont été pillés, la question aussi des œuvres qu'on peut garder, celles que l'on doit restituer, parce que l'on doit ça aussi au pays, au peuple concerné, c'est leur mémoire qui est en question ici. Les musées, et on l'entend à travers ce témoignage, sont quand même aussi des lieux de puissance, Christophe Pomian.
En un certain sens, oui. Des lieux de puissance, des manifestations de la puissance. Et pour revenir à la question des restitutions, il est incontestable qu'il faudra procéder à des restitutions, qu'il faut procéder à des restitutions. Maintenant, le problème, comment procéder, qu'est-ce qu'il faut restituer, qu'a-t-on le droit de garder? C'est une question extrêmement difficile et qu'on ne peut pas aborder ici. Enfin, on peut la poser, mais sans en dire plus. Mais c'est un des grands défis pour les musées européens et pour beaucoup de musées européens et pour certains musées aux États-Unis. Pour les années à venir, ce sera de résoudre cette question. Il est tout à fait anormal, la remarque a été faite, je crois, par le président Macron, qu'il y ait plus d'œuvres artistes africaines en Europe qu'en Afrique.
Effectivement, ça pose question. Ça pose question et c'est un problème. Et c'est ce qui était souligné dans le rapport Felwinsar, Bénédicte Savoie, sur la question des restitutions.
Ouais. Mais nous en revenons à cette question par laquelle nous avons commencé, c'est-à-dire les musées, tout inutile qu'il soit, est en même temps indispensable. Et à un certain moment de l'histoire, les peuples ont besoin d'avoir leur musée. ce mot n'est pas toujours bien compris et facilement accepté, mais ça fait partie de leur identité. Le Louvre fait partie de l'identité française, et pas seulement le Louvre. Et quand nous parlons des Bénins ou des Cameroun, ils ont aussi besoin de cette institution dans le cadre de la construction de leur identité.
L'intérêt d'avoir des collections patrimoniales, écrit ou dit Emmanuel Casary-Roux, le nouveau président du musée du Quai Branly, Jacques Chirac à Paris, nouveau président Kanak. L'intérêt d'avoir des collections patrimoniales, c'est de pouvoir reconstruire du lien culturel à partir de l'histoire. S'il n'y avait pas de collection, tout cela serait illusoire. C'est cette histoire que vous nous racontez, Christophe Pomian, dans Le Musée, une histoire mondiale. On a pour l'instant que le premier volume du Trésor au musée, mais deux autres vont paraître qui interrogent à la fois le temps présent du musée et aussi leur avenir. Vaste somme donc qui paraît chez Gallimard. Est-ce que vous avez trouvé, en travaillant sur toute cette histoire du musée, qu'elle s'écrivait trop sur dans un mode occidental, cette histoire? Est-ce que l'histoire des musées est trop européenne aujourd'hui? Est-ce qu'il est temps qu'elle se mondialise, ou est-ce qu'elle l'est déjà naturellement?
Non, je ne dirais pas. C'est-à-dire, il y a deux choses différentes dans votre question. Une qui concerne la manière d'écrire l'histoire. Alors, il n'y a rien à faire. Cette histoire des musées se déroule pendant plusieurs siècles en Europe. Elle se déroule même pendant plusieurs siècles tout simplement en Italie. Avant qu'elle sorte de l'Italie, ça prendra déjà pas mal de temps. Ensuite, elle est européenne avec quelques têtes de pont dispersées ici ou là. Et ce n'est que, en fait, au cours du 19e tardif et du 20e siècle, que par deux voies très différentes, par la voie des colonisations et par la voie, je dirais, d'européanisation ou d'occidentalisation, que les musées se propagent dans le monde. Donc la mondialisation du musée commence en fait avec la mondialisation de l'économie à partir, si l'on veut, de la, être plus précis, des années 1870, quelque chose comme ça. Donc elle dure maintenant depuis 150 ans à peu près, avec des hauts et des bas, des interruptions, des cataclysmes parfois, comme la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, au fur et à mesure que cette histoire se mondialise, elle, il faut que l'historien des musées mondialise l'histoire qu'il écrit. Donc, mon premier volume est en fait, mis à part une petite excursion chinoise importante, très importante, européen. Mon second volume sera complètement européen et mon troisième volume sera mondial. Il parlera de la Russie, il parlera des États-Unis, il parlera du Japon, il parlera des débuts des musées dans l'Empire ottoman, et évidemment, pour terminer aussi, de toute cette propagation des musées sur d'autres continents, qui, pour l'essentiel, mis à part quelques rares exemples, s'est faite au XXe siècle et continue.
Mais qui n'est pas égal, hein, cette répartition, cette évolution du musée sur la planète. Il reste des zones sans musée aujourd'hui, Christophe Pomian.
Je ne sais pas s'il reste. Il reste des zones où les musées sont très rares. Où les musées sont très rares. C'est par exemple le monde arabo-musulman. Parce que ce n'est pas vrai de toute l'ère musulmane. L'Indonésie est un cas à part, l'Iran est un cas à part. Il y a la zone pacifique où les musées existent, mais où il y a un certain nombre de problèmes assez particuliers, mais dans lesquels il est impossible d'entrer ici. Les musées sont désormais, je pense, partout. Mais la densité des musées est très inégale, en effet.
C'est quand même aussi, et vous l'évoquiez, le musée, un lieu, un instrument de pouvoir pour un pays, et il est important aujourd'hui pour des pays qui veulent s'installer sur la scène internationale, peser, d'avoir aussi leur musée. C'est ce qu'on a pu voir avec des exportations aussi, hein, comme le Louvre à Abu Dhabi. Hein.
Oui, là, en effet, c'est un cas très particulier, en fait, un peu sans précédent. Lorsqu'au XIXe siècle, après la révolution Meiji de 1868, le Japon s'est doté des musées, il n'est pas venu à l'idée de demander au Louvre qu'ils s'exportent. Ils ont fait leur musée eux-mêmes. Donc, le cas de Louvre à Abu Dhabi est en effet un cas un peu spécial. Mais en effet, il est vrai qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ça... on peut trouver cela formulé textuellement dès le XVIIIe siècle. Un pays civilisé est un pays qui a des musées. Et donc, c'est devenu un peu un critère des civilisations et d'appartenance à un certain monde. Voilà.
Et l'Europe n'a pas encore son musée. L'Europe, vous avez travaillé sur l'idée d'un musée européen, mais ça ne s'est pas fait. Est-ce que c'est faute d'avoir une culture commune ?
Non, d'abord, soyons précis.
Ça peut encore
juste,
se faire ?
Ça s'est fait.
Ah, ça s'est fait.
Ça s'est fait. Il existe, pas sous cette forme que j'ai projetée avec mes amis. Ce sont d'autres personnes qui l'ont fait, mais ces musées existent. Ils existent à Bruxelles. L'Union européenne, le Parlement, a assigné des fonds assez conséquents. Un bâtiment a été acheté, une collection y est déployée. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas aujourd'hui du musée de l'Europe.
Bon, mais un plus grand autrement, ça ne sera pas pour demain, a priori. Hein, Chris, non, de ce que vous avez l'air de dire, Christophe Pomian.
Pardon ?
Ce ne sera pas pour demain d'avoir un gros, vaste musée de l'Europe.
Je ne sais pas si on en a même besoin.
Bon.
Je ne suis pas sûr qu'on en ait besoin. Comme les circonstances de ma vie au cours des dernières années ont fait en sorte que je n'ai pas pu aller à Bruxelles depuis plusieurs années, je n'ai pas vu les musées qui existent aujourd'hui.
De toute façon, le musée de demain, il sera virtuel. C'est ce qu'on a appris, c'est la leçon aussi de ce confinement. Demain, le numérique embrassera tout l'objet muséal et ce lieu-là. Et nous aurons des musées virtuels qui nous permettront d'aborder et d'imaginer l'art autrement. J'imagine que pour vous, c'est un cauchemar, Christophe Pomian.
Mais si vous me permettez une dernière phrase.
Une phrase.
Pour qu'il y ait des musées virtuels, il faut absolument qu'il y ait des musées réels. Et rien ne remplacera jamais, aucun écran ne remplacera jamais le face-à-face avec l'objet lui-même.
L'expérience intime et collective. La Nuit Blanche, ce sera le 3 octobre avec beaucoup de lieux qui seront ouverts à cette occasion-là. D'ici là, merci beaucoup Christophe Pomian. Le musée Une Histoire Mondiale du Trésor au Musée, c'est le volume 1, vient de paraître chez Gallimard. C'est un vaste travail. Merci d'être venu nous en parler. Émission programmée par Auriane Delacroix et Jean Bulot, coordonnée par Henri Leblanc, préparée par Laura Dutèche-Pérez avec l'aide très précieuse de Madeleine Martineux et d'Anouk Delfino. À la réalisation, c'était Thomas Beau avec Élise Leu aujourd'hui. Merci à tous et bel après-midi sur France Culture.